RMC Motors. Jean-Luc Roy.
Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous accueillir sur l'antenne de RMC avant un Grand Prix de Formule 1. C'est toujours un plaisir de vous accueillir, mais il est encore plus exacerbé quand il s'agit du Grand Prix de Belgique, du Grand Prix de Spa-Francorchamps. Vous le savez, une épreuve de référence, la 12e du championnat du monde de Formule 1 2017. Et bien évidemment, on va en parler de cette épreuve avec Adrien Tambay. Bonjour Adrien.
Salut Jean-Luc, salut à tous.
Et puis vous le savez, c'est une tradition et un plaisir. On retrouve aussi Patrick Tambay pour présenter les Grands Prix. Salut Patrick.
Bonjour Jean-Luc et bonjour messieurs.
Et puis Louis Amar évidemment qui est avec nous, qui est là-bas au bord de ce toboggan des Ardennes. Alors on va évacuer le sujet tout de suite si tu le veux bien. Louis, parle-nous de la météo. Est-ce que ta grenouille est en pleine forme?
Salut messieurs, bonjour à tous. Ma grenouille est en pleine forme mais pour l'instant elle n'annonce pas de pluie. 21 degrés dans l'air, 28 sur la piste. Quelques nuages mais pas de gouttes prévues. Même si évidemment tout peut aller très vite et que comme c'est un circuit très long, plus de 7 km, il peut pleuvoir à certains endroits et pas à d'autres.
Exactement. Alors Patrick, évidemment on ne sait pas par où commencer. À chaque fois qu'on aborde ce Grand Prix de Spa-Francorchamps, on le dit toujours, c'est le préféré des pilotes. Je pense qu'évidemment il était très haut placé dans ta hiérarchie personnelle, également de grosses émotions, beaucoup de courage comme on dit toujours pudiquement pour les pilotes, hein, pour aller vite là-dessus.
Oui, il faut en avoir. Faut en avoir envie aussi, puis il faut avoir envie de se lâcher dans ces courbes très très rapides qui s'enchaînent les unes après les autres, notamment dans la descente. Là, la descente de Pouhon, c'est quelque chose d'assez énorme. Oui. Parce que je crois que maintenant, nous on rétrogradait et on accélérait et on en repassait deux. Mmh. Mais là maintenant, ils rentrent à fond dans le gauche et c'est absolument indescriptible.
C'est
les poils se dressent sur les avant-bras.
Ah oui, 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 là, je crois que oui, c'est vrai, Patrick. Alors Adrien, toi qui connais ce tracé aussi, qu'il a expérimenté, qu'il a apprécié, évidemment, on va parler, tiens, d'un incident, j'allais dire, mais on va y revenir un petit peu après. Pour le moment, je préfère qu'on parle des choses positives, parce qu'on en est à programmer les moteurs maintenant en fonction du circuit. Enfin, parlons plus tard de ça, parce que c'est tellement sordide, moi, ça m'énerve tellement. Le courage des pilotes, c'est ça qui m'intéresse. Il faut du courage sur un tracé comme celui-là.
Il faut beaucoup de courage, notamment dans ce virage-là, dans Pouhon, ce triple gauche en descente et dans toute cette première partie du circuit, aussi la dernière. En fait, ce circuit est divisé en trois secteurs. Le premier très très rapide avec seulement deux virages entre guillemets, avec notamment le fameux raidillon de l'eau rouge qui n'est malheureusement plus un virage aujourd'hui, les voitures ayant tellement d'adhérence que c'est presque une ligne droite, même si en conditions de course avec beaucoup d'essence dans les voitures plus lourdes, ça va être un peu plus compliqué, la dégradation des pneus aussi, donc ça sera plus un challenge pendant la course. Et puis une portion médiane où les vitesses se ralentissent un peu, où il y a beaucoup de virages en dévers, un peu compliqué, facile de bloquer des roues et plus de technicité. C'est là où Lewis Hamilton a fait la différence hier. Et dans le dernier secteur, c'est à nouveau un secteur très rapide avec Blanchimont. Et puis très important de bien négocier la dernière chicane, l'arrêt de bus, où là c'est très facile de surconduire. Voilà. Donc il y a un peu de tout sur ce circuit, beaucoup de dénivelé et aussi la météo qui est toujours incertaine.
Oui. Et ce tracé, il a évolué dans le temps. Naturellement, on le sait, c'est un tracé naturel qui faisait même 14 kilomètres dans sa première conception, sans rail, effectivement, Patrick. Ça passait dans les villages de Stavelot, Malmedy. On s'en rappelle. Alors justement, et on va écouter Louis aussi dans un instant, nous parler du public qui est là, qui est présent au moins pour deux raisons. Enfin, il en a plus que deux, mais au moins pour deux raisons essentielles qui sont présentes sur la grille de départ. Patrick, si je te parle de ce raidillon de l'eau rouge, et à l'époque, nous journalistes, on avait un privilège exceptionnel, c'est de se placer derrière le rail, et on écoutait, et on regardait, et tu disais les poils qui se dressent, c'était exactement ça.
Oui, mais à l'époque, c'était le lieu, le site prédisposé à être le plus délicat pour les pilotes. Ouais. Et parce que les autres courbes comme Pouhon ou le Blanchimont, tout ça, c'était un peu plus difficile pour passer à fond. Hein. Vraiment, c'était le raidillon qui était le plus délicat. Et quand je pense à tout ce bijou de plaisir que procure le pilotage d'une monoplace, d'une Formule 1 sur ce tracé, c'est absolument irréel, c'est absolument incomparable. Et mais le championnat du monde de Formule 1, c'est ça, c'est des rendez-vous comme la Belgique, la Hongrie,
Suzuka,
Monaco, le Grand Prix de François Castellet.
On va y revenir, bien sûr, Patrick. Alors, Louis, toi, tu es sur place, tu es dans cette ambiance. Je disais, il y a au moins deux raisons. Une, le vrai Belge, je vais l'appeler comme ça, Stoffel Van Dorn, qui prend le départ de son premier Grand Prix national. Et puis, quelqu'un qui, des hordes de supporters orange ont envahi ce circuit. Parle-nous de ça.
c'est le faux belge, donc Max Verstappen, qui est né à Asselt en Belgique. Sa maman est belge, il a passé son permis de conduire ici en Belgique, mais il a la nationalité néerlandaise. Effectivement, c'est pour lui que se sont massés la grande majorité des troupes.
Bien sûr, parce qu'on n'a même pas dit son nom, je crois, jusque-là.
Absolument, c'est vrai, ça paraît tellement évident. C'est Max Verstappen, bien sûr. Des t-shirts et des casquettes orange absolument partout, des campings bondés et qui résonnent de tubes des années 80 dès les premières heures du jour, et ça ne carbure pas exactement au thé ou au café. Une ambiance assez fantastique. Ils sont 50 000 les Néerlandais aujourd'hui, Jean-Luc. 50 000 Néerlandais. Il y a quasiment 100 000 spectateurs et 6% seulement de Belges, d'après les chiffres officiels. Ça veut dire que le Grand Prix de Belgique est un Grand Prix où tous les citoyens des pays alentours vont se rendre, et évidemment les Néerlandais en masse. Là, juste devant moi, il y a une tribune qui est entièrement orange sur la ligne droite des stands, entièrement orange. Il doit y avoir quelques milliers de spectateurs, uniquement des t-shirts orange, des pancartes Go Max, et évidemment c'est là Max Verstappen qu'il a brillé, notamment l'an dernier, décrochant sa meilleure place sur la grille de départ. Il était parti deuxième l'an dernier, il avait signé un podium ici, il est encore aujourd'hui très attendu, même si sa Red Bull ne devrait pas lui permettre de se mêler à la lutte pour la victoire, sauf si des incidents venaient perturber son
plan. Oui, mais sait-on jamais, des incidents il y en a sur ce tracé qui est extrêmement piégeux. Alors Patrick, justement, ce départ, on va en parler, la distance est extrêmement réduite avant le premier.
Chien, fait que ce soit très très proche du premier virage.
Et voilà. Et la pole est du côté à l'intérieur, mais l'adhérence est à l'extérieur. Alors, parle-nous de ça, Patrick.
On a souvent vu des problèmes là.
Ouais. On peut tout perdre.
On peut aussi sortir très large. C'est toléré pour le premier tour, je crois. On peut abandonner un peu la piste parce que le revêtement permet de. Mais je pense que on perd de la vitesse vers la descente de le rouge. C'est le premier virage, oui. On se souviendra des accidents de Romain Grosjean, entre autres.
Oh, il y en a eu des accrochages, oui. 270 mètres, Adrien, c'est la distance qui sépare la position du premier pilote, du poleman, on l'a dit, situé sur la partie droite de la piste, alors que l'adhérence est à gauche, c'est là qu'il passe, mais il faut bien pouvoir fermer la trajectoire. Ça, c'est très délicat à négocier.
Oui, très très peu de distance, du coup, vers ce premier virage, et forcément, on arrive à une vitesse bien moindre que lors d'un tour lancé. C'est là où est la difficulté pour le pilote, gérer, savoir où freiner, et c'est là qu'on peut faire la différence sur un pilote qui prend les risques et un autre qui prend pas, et c'est là que il y a un phénomène d'accordéon qui se passe, et en plus de l'accordéon, il y a de l'entonnoir parce que la piste est très large avant le virage, et puis la trajectoire, elle, idéale, est plutôt serrée, et puis ensuite ça continue toute la descente jusqu'au redillon. On peut prendre l'aspiration, et là on se trouve souvent à deux de front avant le rouge, et là c'est plus compliqué que tout seul de passer à fond.
Ça passe pas. Patrick, normalement ça passe pas. Alors justement, si on anticipe un petit peu, eh bien on peut se mettre à l'aspi. Patrick, essayer de bien sortir au sommet du raidillon, se faire aspirer dans la longue ligne droite de Kemmel jusqu'au combe. Là, il y a une belle zone de dépassement.
Oui, dans la source, tu vas passer peut-être à trois de fond. Ensuite, ça va se réduire bien sûr dans le raidillon, parce que là il y a plus assez de place, c'est vraiment l'entonnoir, comme le disait Adrien. Et puis alors là, il faut être peut-être deuxième, troisième pour bénéficier de l'adhérence et de l'aspiration, je veux dire, pour dans la ligne droite vers les combes bien se placer. Mais c'est généralement un petit peu compliqué dans le premier tour, parce que tout le monde a tendance à vouloir se mettre à l'intérieur plutôt que sur l'extérieur. Mais sur l'extérieur, tu rentres plus vite dans la chicane, parce que ce sont des chicanes avec des changements de direction rapides qui arrivent. C'est de l'improvisation instantanée qu'il faut avoir.
Et oui, qu'il faut avoir. Alors Louis, ce dépassement, je l'évoquais, au bout de la longue ligne droite qui arrive vers les combes, il y avait eu un dépassement exceptionnel de Mika Hakkinen sur Michael Schumacher, avec un pilote qui était au milieu, qui avait été pris un sandwich, qui était ahurissant.
Ah oui, c'est un des endroits évidemment où on attend le plus de dépassements, le plus de spectacles, où il faut le plus de courage pour les pilotes et de volonté d'attaque. Un mot à propos de Michael Schumacher, messieurs, parce que tu me tends la perche. C'est ici, il y a 25 ans que l'Allemand a remporté la première victoire de sa carrière en Formule 1. Et vous y étiez, messieurs,
nous y étions.
En 1992. Et à l'instant, il y a quelques minutes, son fils Mick Schumacher, qui également est pilote, a fait deux tours de parade sur le circuit de Spa-Francorchamps à bord de la voiture que pilotait à l'époque Michael Schumacher. Schumacher. Et là, évidemment aussi, ça a soulevé une grande clameur dans les tribunes du circuit où l'on n'oublie pas non plus Michael Schumacher.
Bien sûr, ça devait être très très émouvant pour Mick Schumacher, qui est pilote, comme tu le disais, et qui a de bons résultats au niveau de la Formule 3. Évidemment, tout le monde va surveiller sa carrière à venir. Et puis, on pense évidemment à Michael, vous le savez. Patrick, je vais te remercier beaucoup d'avoir été avec nous dans cette présentation du Grand Prix de Belgique. Alors, je vais pas te demander un favori, mais on sait que les Ferrari sont toujours un peu mieux en course qu'aux essais, en qualif, même si la pole d'Hamilton qui l'a placé au niveau de Michael Schumacher en nombre de pôles, hein, 68, c'est pas joué pour Mercedes pour autant.
Ben, il y a deux stratégies, il y a la stratégie course et la stratégie qualif. Alors je ne sais pas quelle est la répartition, Adrien va nous l'expliquer très très clairement, mais je pense quand même qu'Hamilton, si il ne se fait pas doubler dès le départ, risque d'être très très dur à battre grâce à la vitesse de sa Mercedes.
Et de sa Mercedes. Merci beaucoup Patrick, on va vivre ensemble Salut. Ce Grand Prix avec passion. On va continuer bien sûr avec Adrien, avec Louis dans un instant et avec toutes les réactions que Louis a enregistrées dans le paddock de ce Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps, dont le départ sera donné dans un peu moins de 45 minutes maintenant en direct sur RMC, la radio de la F1. Vous restez avec nous.
RMC Motors, Jean Lecroix.
Allez, on y revient à cet avant Grand Prix de Formule 1. Il est 13h18, vous êtes bien sur RMC, la radio de la Formule 1, et c'est dans 42 minutes seulement que le départ du tour de formation sera donné. Circuit de 7 km et 4 mètres, 44 tours à parcourir. On va entrer dans le domaine sportif après l'affectif, et c'était une belle page avec Patrick et Adrien et Louis, bien sûr. Louis, donc tu as rencontré Lewis Hamilton. Allez, un mot avant qu'on l'écoute. Lewis Hamilton qui a égalé le nombre de pole positions décrochées par Michael Schumacher, incroyable, 68 pole position.
1 minute 42 553 millièmes, voilà le temps qu'il a fallu pour un exploit, celui de Lewis Hamilton hier, et un exploit riche en symboles. On évoquait tout à l'heure la première victoire de Michael Schumacher ici même à Spa-Francorchamps. C'est donc ici que le Britannique est allé chercher son record de pole, ici pour son 200e Grand Prix, hein. C'est la 200e fois que Lewis Hamilton prendra le départ d'une course de Formule 1, soit dit en passant 68 poles en 199 courses, en 200 séances de qualification. C'est quand même une performance assez remarquable, et celle d'hier n'a pas dérogé à la règle, elle a été éclatante, sa pole position, des allures incroyables sur les deux secteurs rapides et une maîtrise glaciale sur le secteur plus compliqué et plus technique.
Ah oui, c'est absolument éblouissant, ça veut dire qu'il a décroché la pole dans un tiers des Grands Prix auxquels il a participé, en incluant tout, hein, ce qui est vraiment, vraiment éblouissant. On va l'écouter, Lewis Hamilton, sincèrement ému, effectivement, comme il l'était lorsqu'il a égalé le record de pole position d'Ayrton Senna, c'était il n'y a pas si longtemps. On l'écoute au micro de Louis Amar.
It's a very unreal experience to think that I'm up there now with that great, great name.
C'est vraiment irréel de me dire que je suis tout là-haut à côté de ce grand nom, Michael Schumacher. J'ai grandi en le regardant, en jouant avec sa voiture à l'ordinateur. Alors c'est presque bizarre de réussir à l'égaler. Mais c'est avant tout une fierté. C'est fantastique pour ma famille, pour les Hamilton, parce qu'on vient de loin, on a travaillé ensemble depuis le début, et aujourd'hui ce nom-là est parmi les plus grands. Donc quoi qu'il arrive, quoi qu'il m'arrive, ce nom restera, et les gens sauront que nous avons été là un jour. Et je suis très fier de ça.
Ah oui, c'est même étonnant, Adrien, qu'il évoque, évidemment, je vais pas te faire rosir, qu'il évoque le nom de son papa. Son papa n'était pas pilote, on le sait, mais il a beaucoup contribué à sa carrière, il l'a beaucoup aidé, il l'a amené jusqu'à la Formule 1 avec Ron Dennis, hein. On s'en souvient qu'il a pris sous son aile également, mais ça prouve qu'il était réellement ému, Lewis, pour cette pole qui représente vraiment quelque chose pour lui.
Je crois qu'il sait d'où il vient. Lewis Hamilton, c'est une véritable success story. Il vient pas d'un milieu très très aisé non plus. Et, non. Et son papa a fait beaucoup de sacrifices, comme le mien d'ailleurs. Et voilà, c'est le travail de toute une famille, même si c'est lui qui aujourd'hui est à la fin de cette chaîne et qui arrive à faire des choses exceptionnelles au volant de ces Formule 1, qui est une légende maintenant, c'est une légende vivante, Lewis Hamilton, et égaler le nombre de pole position de Michael Schumacher qui lui avait eu des années fantastiques aussi avec Ferrari aussitôt, parce que Michael Schumacher a mis plus de 240 Grands Prix à faire 68 poles. Je pense que Lewis Hamilton est loin d'avoir terminé, Jean-Luc, oui. Et il est pas prêt de, en tout cas il a pas envie de s'arrêter.
On va rappeler qu'il est né le 7 janvier 1985. Donc Lewis Hamilton, il a exactement 32 ans. Ce sera le départ, le 200e départ, tu l'évoquais Louis il y a un instant. 57 victoires, 68 pole positions, donc 37 meilleurs tours, 110 podiums. Bref, voilà, rapidement évoqué la carrière de Lewis. Alors, on l'évoquait dans les paris RMC tout à l'heure, il y a un instant. Il faut bien essayer de trouver une solution et du suspense. Louis, il est très confiant, évidemment, Lewis, s'il réussit son départ et s'il parvient à gérer les pneumatiques. On va en parler de ses pneus dans un instant.
Il peut l'être, confiant Lewis Hamilton, parce qu'en effet, même s'il avait connu quelques problèmes dans l'exercice la saison dernière, depuis le début de la saison, lorsqu'il est en pole position, souvent, il arrive à convertir ces pôles-là en victoire, d'autant plus que sa Mercedes, sur un circuit qui laisse la part belle à la puissance moteur, devrait exceller. Rappelons aussi que Mercedes a apporté un nouveau moteur ce week-end ici en Belgique. C'est déjà le quatrième moteur utilisé par l'écurie allemande qui les panache sur l'ensemble de la saison, de sorte, de façon à éviter les pénalités. Et ce moteur, il semble quasiment plus performant que les précédents, et Lewis Hamilton et Valtteri Bottas d'ailleurs s'en réjouissaient dès les premières séances d'essais libres. Donc évidemment, s'il n'y a pas d'incident en course et si Lewis Hamilton réussit son départ, eh bien ce Grand Prix devrait être pour lui, sachant qu'en plus c'est crucial au classement général du championnat du monde. Il ne peut plus rien laisser à Sebastian Vettel. C'est pour cela aussi qu'il était très heureux hier, Lewis Hamilton. Évidemment, il y avait l'émotion symbolique de ce record, mais il y avait aussi la niaque sportive de celui qui sait qu'il ne peut plus rien laisser passer en route.
Alors, puisque tu évoques le championnat, effectivement, 202 points, c'est le total de Sébastien Vettel, leader du championnat, après sa victoire lors du dernier Grand Prix en Hongrie. Lewis Hamilton en compte 188. Valtteri Bottas est derrière, mais pas si loin que ça, 169 points. Et puis on trouve ensuite, beaucoup plus loin, Daniel Ricciardo 117 et Kimi Raikkonen 116. Alors, au niveau des pôles, puisqu'on va refermer ce chapitre provisoirement pour le moment, Lewis Hamilton, c'est donc la 7e de la saison. Avant, il avait été le plus rapide en Grande-Bretagne, on s'en rappelle, il avait été très dominateur. Et puis en Azerbaïdjan, on se souvient de la remise en route entre guillemets derrière le safety car délicat, et puis le Canada, il avait également été l'homme le plus rapide en Espagne, et puis également en Chine et en Australie. Voilà pour les pôles de Lewis Hamilton. Alors, à ses côtés, il y aura un pilote Ferrari, Adrien, qu'on sentait pas très bien en essai libre, et puis finalement, en qualif, il s'est retrouvé au bon moment.
Ben effectivement, Jean-Luc, Kimi Raikkonen, qui avait lui dominé Sebastian Vettel, c'est la personne à laquelle tu parles, tu fais mention, et effectivement, Sébastien Vettel, il est toujours là, présent au bon moment quand il faut, c'est-à-dire dans ce dernier tour, dans cette ultime tentative en Q3, il a réussi à sortir un très très beau tour à 2 dixièmes et demi seulement de Lewis Hamilton, et c'est une très belle performance quand on voit le déficit qu'a cette Ferrari dans le premier secteur notamment. Il rentre tout simplement cet écart de temps au tour, et il rentre 2 dixièmes dans le premier secteur, et c'est ce qu'il perd par rapport à Lewis Hamilton environ tous les tours. C'est un secteur où le moteur agit le plus sur la performance, et je pense que voilà, c'est là que le bas blesse un petit peu chez Ferrari encore. Le moteur Mercedes est très très performant.
Allez, on va quand même écouter Sébastien Vettel au micro de Louis Hamar. Finalement, malgré tout, plutôt content de cette journée de qualif, c'est ce qu'il dit.
Je suis très content de ma journée. Je pense qu'on a réussi aujourd'hui quelque chose que peu de gens attendaient, être vraiment proche de la Mercedes. J'attends la course avec impatience, la voiture est très bonne, le circuit est long, le Grand Prix le sera aussi. Donc comme d'habitude, je répète les mêmes choses, mais c'est vrai, il faudra faire attention à tout, le départ, les pneus, la météo, la stratégie. On verra, mais il faudra être intelligent.
Ça c'est clair, de toute façon pour gagner des courses il faut évidemment être intelligent. Louis, on sait qu'également il a bénéficié, Sébastien Vettel, il l'a dit volontiers, de l'aide de Kimi Raikkonen, qui lui s'était raté dans son tour de qualif et qui savait que son équipier était derrière, il l'a donc aspiré. On a vu plusieurs équipes et plusieurs pilotes faire ça.
Exactement, ça a été le cas notamment entre les deux McLaren également, oui. Stoffel Vandoorne, qui savait qu'il allait être lourdement pénalisé sur la grille de départ et qui a donc pris les devants de Fernando Alonso pour essayer de l'aspirer. Finalement, ça n'a pas fonctionné pour l'Espagnol. Là, ça a plutôt bien fonctionné pour Sébastien Vettel derrière Kimi Raikkonen, parce qu'il n'est pas si loin de Lewis Hamilton, un petit peu plus de 2 dixièmes de secondes d'écart entre les deux pilotes. Mais effectivement, et on écoutera tout à l'heure Romain Grosjean, qui lui aussi a essayé de le faire avec Kevin Magnussen, mais qui a connu davantage de troubles, de turbulences, parce qu'il ne l'avait encore jamais fait, le Français.
Ben oui, puis bon, l'ambiance n'est pas tout à fait la même, j'ai l'impression, du côté de l'équipe AS, que ce qui se passe chez Ferrari avec Kimi Raikkonen. On va rappeler, Adrien, juste on l'a dit hier, mais que les deux pilotes sont reconduits. On a d'abord reconduit Raikkonen pour une année supplémentaire, et puis comme par hasard, on a reconduit Vettel jusqu'à 2020.
Je crois que que Sébastien Vettel a eu ce qu'il voulait. Je pense qu'il décide et c'est bien normal. C'est le pilote numéro un.
C'est le patron.
C'est le patron chez Ferrari et il le démontre par ses performances. Même si Kimi Raikkonen a réussi de très belles performances aussi, il est toujours là, il est toujours performant et c'est d'ailleurs pour ça il faut le souligner que la Scuderia Ferrari le garde. Il fait toujours le boulot, notamment ici à Spa-Francorchamps. Et c'est aussi peut-être une bonne nouvelle pour un Charles Leclerc qui est en Formule 2 et le fait qu'on ait reconduit le pilote titulaire pour un an seulement, c'est peut-être qu'on laisse la porte ouverte. On sait que Charles fait partie de la Ferrari Academy et qu'il aurait peut-être besoin d'un an en Formule 1 dans une autre équipe. On parle de, j'étais avec son frère hier, on parle de Sauber pour l'année prochaine.
Ah oui, ce serait une bonne nouvelle. Et Charles Leclerc, on peut dire qu'il avait gagné normalement la première course de Formule 2, puisqu'on a changé de nom, l'ex-GP2 est devenu Formule 2, mais que pour une toute petite raison technique, il a été déclassé malheureusement. Il n'était pas le seul pilote d'ailleurs. Il a perdu le bénéfice de sa victoire, mais il est toujours largement leader de la catégorie.
Ouais, il est.
Et messieurs, à propos de Charles Leclerc, pardon, des voix chez Ferrari s'élevaient pour le prendre dès la saison prochaine. Il avait ses partisans, Charles Leclerc. Alors, la Scuderia n'a jamais fait ça, prendre un pilote et le faire démarrer un F1 depuis son académie. Donc, ça aurait été une sorte de séisme pour le petit monde de Ferrari. Finalement, il a été décidé de lui faire acquérir en effet un an d'expérience pour voir s'il a les épaules pour succéder à Kimi Raikkonen, mais il avait ses partisans et de fait la piste Sauber se confirme d'heure en heure. C'est un secret de polichinelle, on attend simplement l'officialisation de la signature de Charles Leclerc chez Sauber, mais c'est le pas logique après l'accord entre Sauber et Ferrari pour le moteur de l'année prochaine.
Et vraisemblablement à la place de Marcus Ericsson, hein, pour être clair, puisque...
Plutôt celle de Pascal Wehrlein. Parce que Ericsson apporte des sous dont l'écurie n'est aujourd'hui pas en mesure de se passer.
Et on parlerait de Force India pour Pascal Wehrlein et on est en attente en fait de la situation Renault avec Pérez.
On rappelle que Fred Vasseur est aux affaires maintenant et le patron de l'équipe chez Sauber. Voilà. Donc effectivement d'accord. Ah oui, il choisirait les d'accord. Compris.
Mais il choisit pas en fait. Lui qui choisit.
Okay. Oui. Enfin bon. On va attendre la suite des opérations. Alors, sur la deuxième ligne de cette grille de départ, on vous l'a dit, il y a une autre Mercedes et une autre Ferrari. La Mercedes évidemment, c'est celle de Valtteri Bottas que l'on va écouter à ton micro. Oui, Valtteri Bottas qui marque quand même un petit peu le pas, il est à plus de 5 dixièmes de Lewis Hamilton. On l'écoute à propos de la course.
Ça va être une longue course et partir troisième ici, ce n'est pas mal. Il y a de longues lignes droites et donc des opportunités de dépassement. Mais je suis quand même déçu de l'écart avec Lewis. C'est un écart important. Je ne sais pas comment l'expliquer pour l'instant. Donc on va regarder ça attentivement. Maintenant, encore une fois, il y aura peut-être un coup à jouer dès le début et c'est une longue course.
Oui, c'est commentaire minimum, là, Adrien. C'est une longue course. Oui, on le sait. Et puis, il y a l'aspiration. On peut en reparler quand même. Finalement, le handicap, entre guillemets, de partir de la deuxième ligne, on va voir dans les premiers tours où l'aspiration, surtout dès qu'on ouvre le DRS, au bout de deux tours, ça peut être évidemment un atout aussi.
Ça peut être un atout. Après, le souci, ça va être de pouvoir se rapprocher d'une voiture assez pour planter une attaque, DRS ou pas DRS, parce qu'on a quand même des virages rapides où on va avoir ce fameux dévent, où on va être dérangé par les perturbations aérodynamiques de la voiture qui nous précède. Donc le départ, même si la course se joue pas au premier virage, il va quand même être important ce premier virage, et notamment pour Lewis Hamilton, parce que comme le disait papa tout à l'heure, ça va être dur d'arrêter Lewis Hamilton s'il arrive à boucler ce premier tour en tête. Ouais.
J'entends un léger murmure en arrière-plan de ton micro. Oh, je vais la faire à chaque fois. Hein. N'y aurait-il pas quelques moteurs qui se seraient mis en route dans les stands, Louis?
Petits moteurs hybrides qui se sont mis en route, effectivement. On a ouvert la voie des stands et c'est Esteban Ocon, le premier qui s'est mis en action, le français, pour son anniversaire. Ça fait un an qu'il est pilote de Formule 1, Esteban Ocon.
On va en parler absolument. Et on parle des moteurs. Vous savez, c'est de la réglementation 2020 dont on parle maintenant. Il y a des réunions. Et vous le savez, officiellement, la FIA a enfin reconnu que le bruit était un facteur important. Et Ross Brawn, qui mène cette mission technique, en a conscience. Donc on va essayer de redonner vie à ces moteurs. Vie et passion, en tout cas, pour le public tout autour. Une nouvelle fois, ça fait au moins 3 ans qu'on le dit sur cette antenne. Allez, c'est fait, c'est refermé. On passe à autre chose. Et on passe justement, effectivement, aux autres réactions derrière. Elles vont concerner la troisième ligne, de la grille de départ avec Max Verstappen. Alors Louis, tu nous décrivais les tribunes, tu disais, il y a peut-être 50 000 spectateurs qui sont venus pour soutenir le Hollandais volant.
Ah oui, ce sont les chiffres communiqués par le fan club de Max Verstappen qui est venu en nombre. Max Verstappen, il a même un magasin qui s'appelle Max Verstappen Shop, très originalement, et qui est tenu par le leader de son fan club, qui est là avec toute sa bande. Les campings aux alentours de Spa-Francorchamps, c'est un petit peu ce qu'on avait vécu également en Autriche il y a quelques semaines, oui. Sont totalement repeints en orange. Il n'y a que des t-shirts orange, que des casquettes orange. Max Verstappen a fait lui-même un tour de parade tout à l'heure avec la fameuse casquette orange. Là, à l'instant, juste comme il est en train de faire son tour d'installation, eh bien, les supporters l'acclament à chaque fois qu'il passe devant eux. C'est vraiment lui la star de ce Grand Prix de Belgique. Davantage, et c'est presque triste pour lui, que Stoffel Vandoorne, qui vit sa première expérience à domicile, et même s'il a une tribune à son nom, c'est bien Max Verstappen que la majorité du public est aujourd'hui venu acclamer.
Et c'est évidemment un soutien, Brian, hein. C'est évident, quand on a un public comme ça, tout acquis à sa cause, et surtout, Louis le rappelait tout à l'heure, l'exploit qu'il avait réalisé l'an dernier, justement, aux commandes de sa Red Bull, est-ce qu'il va être capable de remonter sur le podium en partant de cette troisième ligne, c'est la question.
En tout cas, hier, il a fait un très très beau tour, parce que pour mettre autant de temps à son coéquipier qu'il l'a fait, et Daniel Ricciardo, on sait qu'il est rapide.
Près de 5 dixièmes,
c'est énorme pour Max Verstappen. Alors c'est sûr que là, il a en plus le soutien de tous ses fans, mais je pense qu'il a vraiment pas besoin de ça pour donner le maximum de sa performance. Le pilote hollandais, et honnêtement, c'est voilà, on parlait tout à l'heure de caractère, on parlait de Lewis Hamilton, d'une légende, mais là on a en Max Verstappen un vrai caractère, quelqu'un qui dit toujours ce qu'il pense, qui attaque, qui double quand il veut doubler, et c'est pour ça d'ailleurs que le grand public l'aime. Et puis ouais, voilà, la Hollande c'est un petit pays, et dès qu'on a un pilote comme ça en Formule 1 qui en plus sort du lot, c'est normal qu'il vienne le voir, c'est pas très loin.
Eh ben oui, c'est tout à fait normal, effectivement, ils sont très voisins. On va écouter Daniel Ricciardo, son équipier, qui lui, comme tu viens de le dire Adrien, a un petit peu marqué le pas. Il est sur la troisième ligne de la grille de départ, mais il a concédé près de 5 dixièmes à son fougueux équipier chez Red Bull Renault. C'est Daniel Ricciardo, l'Australien, au micro de Louis Hamar.
I don't feel I could have done anything else. Let's say that. You
know. Je crois que je n'aurais pas pu faire mieux que ça. Donc je ne suis pas déçu de moi-même, mais j'aurais évidemment espéré être en mesure d'aller plus vite. À chaque fois que j'essayais de pousser, je sentais que je ne pouvais pas, que j'atteignais vite les limites de la voiture. C'était assez frustrant. Je pense que ça se passera mieux sur les longs relais, que les pneus seront plus constants. Donc en course, on devrait se rapprocher du top 5.
Louis, c'est un petit aveu d'impuissance, hein, finalement, pour le Hollandais, qui a quand même remporté une victoire, il faut le rappeler, même s'il avait été très opportuniste, mais et il est là, Daniel Ricciardo, il est solide, et on le rappelait tout à l'heure, eh bien, au championnat, même si, bon, évidemment, les espoirs de victoire avec sa quatrième position, hein, mais 117 points contre 202 à Vettel, ça fait beaucoup. Daniel Ricciardo, qui s'était imposé en Azerbaïdjan dans ce Grand Prix, donc extrêmement mouvementé, dont on parlait. Un petit aveu, moi je vais dire, d'impuissance malgré tout.
Oui, absolument, mais c'est un refrain qu'on l'entend souvent entonner à l'issue des séances de qualification. C'est la phrase spéciale de Daniel Ricciardo depuis le début de saison. J'aurais pas pu faire mieux, ouais. J'étais coincé, les autres allaient plus vite, il est handicapé par tout simplement les insuffisances de sa monoplace par rapport à celle des équipes de pointe. C'est d'autant plus un exploit dans ces conditions de signer la première partie de saison qu'il a signé.
Bien
5 podiums, une victoire, on l'a dit, à Bakou, dans des conditions extrêmement particulières, mais quand même il a réussi à l'obtenir, cette victoire. Et puis au classement général provisoire du championnat du monde, il est quand même devant une Ferrari, donc il arrive à s'intercaler au milieu des quatre. Il est quatrième au classement général, devant Kimi Raikkonen, et avec un petit point d'avance seulement, certes, mais un petit point quand même.
Ben oui, il est là. Alors, on voit des déclarations un petit peu dans tous les sens. Il a dit, oui, on parlait de moi chez Ferrari, mais je crois que c'est repoussé pour le moment. Ben oui, on le sait. On verra pour 2019, dit Daniel Ricciardo. Bon, évidemment, il faut alimenter un petit peu les rumeurs en cette silly season, hein, Adrien.
Ben, je crois qu'il est quand même bien là où il est, Daniel Ricciardo, il a été soutenu par Red Bull depuis son plus jeune âge, et c'est grâce à Red Bull qu'il est là où il est. Ça s'est toujours bien passé, contrairement à d'autres pilotes, et il a l'air d'avoir une relation avec Red Bull qui est très saine. Donc pour l'instant, pas de raison de bouger. On va voir ce que la Red Bull fera au niveau de la performance l'année prochaine, et voilà, pour Daniel Ricciardo, on espère qu'un jour il aura une voiture qui lui permette de se battre pour le championnat du monde.
On va vous parler bien sûr des pilotes français dans un instant. On rappelle que sur la quatrième ligne de la grille de départ de ce Grand Prix de Belgique, il y aura Nico Hülkenberg, le plus rapide des pilotes Renault. Mais Jordan Palmer, on en parlera aussi, n'a pas démérité. Il était dans le top 10. Sergio Pérez sera à ses côtés sur cette quatrième ligne. Et puis je voulais vous donner un résultat d'IndyCar. La course s'est déroulée hier soir. C'était à Gateway sur un grand ovale. C'est Joseph Newgarden, le pilote du team Penske, qui l'a emporté après un dépassement très audacieux sur Simon Pagenaud, qui l'a poussé un petit peu dehors, les deux équipiers. Pagenaud qui termine troisième, le pilote français. Scott Dixon est deuxième. Elio Castroneves est quatrième. Donc trois pilotes Penske parmi les quatre premiers. Mais surtout, je voulais souligner le retour en compétition de Sébastien Bourdais pour le Dale Coyne Racing après son effroyable accident aux essais des 500 miles d'Indianapolis. Eh bien, il est de retour, Seb. Voilà encore un pilote qui avait tout le talent pour briller en Formule 1 au plus haut niveau. Et au classement général provisoire du championnat, Newgarden est en tête, le vainqueur de Gateway avec 547 points devant Scott Dixon, Elio Castroneves et Pagenaud. Un petit point d'écart seulement entre Castroneves et Pagenaud. Voilà pour les nouvelles du monde des sports mécaniques. Vous restez avec nous, bien sûr, sur RMC. On vous donne des nouvelles du reste de la grille et notamment des pilotes français.
RMC Motors, Jean Lecroix.
Alors, je vous l'ai promis, eh bien, dans cet avant Grand Prix de Formule 1 du Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps, la reprise, la 12e épreuve de la saison. Eh bien, Louis, on va évidemment évoquer, on l'a dit, la performance du pilote français Esteban Ocon. Pourquoi ? Parce que tu le rappelais tout à l'heure, il y a un an exactement, Esteban Ocon était arrivé sur la grille de départ des Grands Prix de Formule 1.
C'est clair que forcément j'y repense, l'année dernière c'était complètement différent et c'était même plus chargé cette journée-là. Mais voilà, c'est super de revenir ici avec de beaux souvenirs de l'année dernière, donc c'est quand même cool. Ça va faciliter les choses, je pense, d'avoir eu de l'expérience, voilà, des choses que j'avais pas faites bien l'année dernière. Je vais essayer de pas les refaire, les erreurs. Et du coup, ça va aider sur ma performance et espérons sur le résultat.
Et Louis, 1 minute 45 secondes et 6 millièmes contre Pérez, 1:44.894. Certes, il n'est pas devant, mais il n'est qu'à un gros dixième de la référence Pérez.
Alors, on peut voir le verre à moitié plein en se disant qu'effectivement, il est tout près de la référence Sergio Pérez. On peut aussi le voir à moitié vide en rappelant que sur les derniers Grands Prix, il est arrivé souvent à Esteban Ocon d'être devant son équipier lors des séances d'essais libres, devant même parfois en Q1 et en Q2. Mais à chaque fois, il lui manque ce petit supplément de vitesse et de performance qui lui permettrait de le devancer en qualification, en Q3. Mais évidemment, la progression est assez fulgurante, hein. Depuis un an qu'Esteban Ocon est pilote de Formule 1, il a démarré au volant d'une modeste Manor qui ne lui permettait pas vraiment de prétendre à des places d'honneur. Mais au moins, il a fini tous les Grands Prix. Il n'a encore jamais abandonné en Formule 1. Esteban Ocon, c'est suffisamment rare pour être souligné. D'ailleurs, cette saison, c'est le seul avec Hamilton et Vettel à être dans ce cas-là. Ça situe aussi notre homme. Il a brillé notamment au Grand Prix du Brésil l'année dernière dans des conditions rocambolesques, sous une pluie terrible qui obligeait les pilotes à se démener. Et puis, cette saison, il répond aux attentes qu'on avait placées en lui. Dans une écurie de pointe, Force India, la quatrième équipe du plateau. Il était attendu au tournant par Toto Wolff, le patron de Mercedes, qui l'a recruté dans sa filière il y a maintenant un petit peu plus de 2 ans. Et Toto Wolff lui rend un bel hommage en disant que des jeunes, c'est le meilleur, tout simplement, Esteban Ocon, le meilleur, celui qui a su le mieux tirer profit des nouvelles voitures et des nouveaux pneus. Donc il poursuit sa progression. Il est toujours à la recherche d'un podium cette saison. Tant qu'il ne l'aura pas, il ne sera pas content. Et puis, quand on demande à Esteban Ocon où il se voit dans 10 ans, il répond sans sourciller, champion du monde.
Et oui, et solidement installé. On parlait de l'équipe Force India Mercedes au quatrième rang, puisque derrière, loin derrière évidemment, Mercedes et ses 357 points, il y a Ferrari avec 318, il y a Red Bull solidement installé troisième, 184, et Force India 101 points, loin, très loin devant Williams Mercedes. Donc, et puis on en revenait à Ocon. Alors on va l'écouter avant d'écouter l'opinion d'Adrien à propos de sa qualif. Déçu évidemment, puisque il est derrière son équipier, il pense qu'il pouvait faire mieux, Esteban Ocon, pour ce Grand Prix de Belgique.
Pas super la qualif, honnêtement. J'ai eu un bon feeling avec la voiture au début sur la Q1, le premier run, et puis après la Q2 aussi, j'avais un super bon grip, donc c'était plutôt bien. Et après, je sais pas, ça s'est dégradé dans la qualif, ça a été de moins en moins bien. Je pense que voilà, Renault, on aurait pu jouer quelque chose, donc il va falloir qu'on bosse un petit peu et qu'on comprenne pourquoi ça a dégradé autant.
Alors, on l'évoquait, Adrien, dans les grandes gueules tout à l'heure, le futur d'Esteban Ocon, les espoirs qu'il suscite évidemment au niveau français, mais pas seulement. Toto Wolff dit beaucoup de bien de lui, c'est le meilleur des rookies, c'est très clair. Maintenant, comme on l'évoquait aussi il y a un instant, il faudrait qu'il prenne nettement l'avantage sur Pérez, peut-être encore, mais après, il faudrait attendre que des portes s'ouvrent devant. C'est ça le problème.
Oui, le petit problème qu'il y a, c'est que Pérez est un peu sous-estimé, même si maintenant, ça y est, il commence à redorer son blason. Il a été dans des situations avec une voiture qui, sur le papier, était bien meilleure, Sergio Pérez, et où il s'était fait battre par son coéquipier.
La McLaren, mais là, on va dire que c'était un petit peu la jeunesse, hein. Il était un peu léger.
On est d'accord. Ouais, le problème, c'est que maintenant, pour effectivement, comme tu le disais, pour qu'Esteban vraiment fasse un step, il faudrait qu'il devance Sergio Pérez en qualification de manière nette, au moins régulière. Et, ouais. Et voilà, c'est aujourd'hui, enfin en tout cas hier en qualification, il était vraiment pas loin. Ils ont une belle carte à jouer, les Force India, en course aujourd'hui. On les a vus très vite dans le premier secteur. On sait les voitures très efficaces en aéro. Et très vite avec le moteur Mercedes dans le premier secteur, il avait fait d'ailleurs un premier secteur meilleur absolu du
remarquable.
Plateau.
Voilà. Absolument. Il partira donc en cinquième ligne, Esteban Ocon, et à ses côtés, ça n'est pas Jolyon Palmer qui a eu un problème mécanique, qui sera pénalisé de 5 places pour un changement de boîte de vitesse avec sa Renault. Il partira donc 15e, mais c'est bien Fernando Alonso avec un tour extraordinaire.
14e, Jean-Luc.
À 14e
en fait, Jolyon Palmer, oui.
D'accord.
Avec le jeu des pénalités, il sera 14e. La grille officielle vient de nous parvenir.
Eh ben voilà, moi tu vois, j'avais pas la toute dernière, donc ok. Puisqu'il prenait 5 places de pénalité, mais c'est vrai que par le jeu, comme tu le disais, oui, d'autres pénalités qui ont frappé notamment Magnussen, si je ne m'abuse, hein, c'est ça derrière.
Il me semble. Non, Kevin Magnussen n'est pas pénalisé. Il y a d'autres pilotes pénalisés, mais pas Magnussen. On fera le point complet tout à l'heure parce que,
absolument,
effectivement, pour cette reprise, il y a déjà énormément de places de pénalité. On dépasse quasiment les 100.
Ah, bah oui, puis c'est pas fini, hein. 65 places, rendez-vous compte pour Stoffel Van Dorn. On va en parler dans un instant. Alors, parlons, justement de Romain Grosjean qui s'en tire plutôt pas mal. Alors, reprends-moi si je ne suis pas bon. Il partira 11e sur la grille, c'est bien ça, Romain?
Ça, c'est bon.
Ah,
bah,
c'est bon. Tout formidable. Bon. Il avait le 12e temps. On va l'écouter, Romain Grosjean, justement, avec toujours quelques problèmes de freinage sur sa Haas, mais bon, il s'en est plutôt pas trop mal tiré, le pilote français.
Parce que j'ai fait des très beaux tours. On a au début pas utilisé le phénomène d'aspiration et je perdais énormément de temps par rapport à mon coéquipier. Donc sur le dernier run, j'ai utilisé un petit peu l'aspiration d'une autre voiture. J'aurais pu être un peu plus proche pour gagner plus, mais bon, je l'avais jamais fait, donc je savais pas trop où me placer. Mais le tour en lui-même était un très beau tour. On peut toujours trouver ici et là, mais dans l'ensemble, j'étais satisfait avec ma performance.
Ben, il peut, effectivement. Puis partir 11e, c'est un bel avantage également, Adrien, parce que ça permet de choisir ses pneus, hein. C'est l'avantage, quand on n'est pas dans le top 10, on peut partir avec ce qu'on veut.
Effectivement, il va pouvoir se décaler en stratégie, Romain Grosjean, et puis tenter quelque chose. Il est très très rapide à Spa. Romain, c'est un circuit qu'il adore, qu'il affectionne. Il a un gros cœur, hein. Il est très bon dans les virages rapides. Pour lui aujourd'hui, ça va être important de passer ce premier tour sans encombre, et effectivement essayer de gagner deux ou trois places peut-être dans le premier tour pour aller marquer des points. Si les soucis de freinage et d'équilibre de la monoplace sont réglés, ça va être une bonne course pour Romain.
Alors parlons de l'homme qui partira tout en fond de grille avec ses 65 places de pénalité, même si en qualification, eh bien à un moment il avait démontré du potentiel. C'est bien sûr Stoffel Van Dorn, le pilote belge, qui lui est un vrai belge, j'allais dire né en Belgique, nationalité belge, très très bon pilote dans le giron McLaren. On va l'écouter justement au micro de Louis Amar parler de cet événement pour lui qui représente les couleurs de son pays.
C'est très chouette de voir l'initiative du Grand Prix, d'avoir sa propre tribune. Je sais qu'il y aura beaucoup de fans, beaucoup de familles, beaucoup de copains qui seront là. Donc voilà, très chouette d'être à la maison et enfin pouvoir commencer ce Grand Prix. Ce week-end, il est un peu plus chargé que des autres week-ends, avec beaucoup d'attention des médias belges, des activités avec les partenaires. Mais ça fait partie du boulot. Mais voilà, une fois qu'on est au circuit, on peut se concentrer à 100% sur le week-end.
Et puis on peut dire qu'il ne démérite pas, hein, pour le moins, Stoffel Van Dorn, aux côtés de son double champion du monde d'équipier, Fernando Alonso. Tiens, je crois que c'est l'hymne belge que l'on va écouter. La Brabançonne. Voilà pour cet hymne belge, les pilotes qui sont bien sûr alignés et qui l'écoutent sur la ligne de départ aux côtés des autorités belges. Et c'est très bien, on le dit à chaque fois, que ce Grand Prix de Belgique, qui a connu une période extrêmement délicate de son existence il y a quelques années, il avait même été supprimé, heureusement qu'il soit revenu au calendrier. C'est une très très belle référence. On n'en a pas fini avec la Formule 1, je vous rassure, puisqu'on va y revenir. Mais je voulais qu'on parle de moto, évidemment. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Benoît Boutron. Salut Benoît.
Salut Jean-Luc, salut Adrien, salut Lucho, salut à tous.
Alors, Ben, tu viens régulièrement nous parler de moto parce qu'il y a un Grand Prix moto.
Exactement.
Et oui, en même temps qu'un Grand Prix de Formule 1, c'est
alors,
à Silverstone.
Pas vraiment en même temps, on s'adapte
oui,
à la Formule 1 en moto GP, c'est ça qui est bon.
Le
ça,
même jour. Ouais.
Exactement, ça démarre à 16h30, on a décalé le départ du Grand Prix moto GP pour justement ne pas être en
c'est
concurrence avec le Grand Prix de Formule 1, c'est très intelligent effectivement. Et donc un beau Grand Prix qui nous attend, et surprise, il fait très beau à Silverstone, 33 degrés attendus sur la piste. C'est incroyable, on est au mois d'août, mais on connaît l'Angleterre.
Et s'il fait beau à Spa et à Silverstone le même jour,
Benoît, la pole, elle est revenue évidemment à l'homme qui domine le championnat, qui est en tête pour le moment, qui est champion du monde.
Exactement. Il est en train de faire la différence, Marc Marquez, effectivement. Quatrième pole d'affilée cette saison. Il a signé 3 victoires en Grand Prix. Il a fait la pole. Il devient le premier pilote de l'histoire à descendre sous les 2 minutes en MotoGP sur ce circuit. Donc c'est une sacrée performance de Marc Marquez. Il nous a un peu inquiété en début de week-end.
Oui,
il a chuté deux fois,
c'est ça.
En essai libre. Et Marc Marquez s'élancera en tête devant un certain Valentino Rossi. Je ne sais pas si vous le connaissez.
Un petit peu.
300e Grand Prix de MotoGP.
300 Grand Prix. Ouais, c'est une légende.
Et
vivante,
toujours à la bagarre pour le titre.
Mais c'est ça, il a toujours aussi faim. C'est ça qui est fabuleux avec Valentino, au-delà du personnage que l'on connaît.
Exactement.
Alors, il y a un Britannique qui a brillé quand même, qui est pas trop mal sur la
Et ça, c'est incroyable. Dès qu'on arrive en Grande-Bretagne, les Britanniques s'illustrent. Il n'est pas très bon depuis
les
début de saison.
Les saignants, comme on dit. Je me le permets.
Partira troisième, donc lui aussi il est en première ligne, Cal Crutchlow. Il a signé un très bon temps, il a été très bon également en séance de warm-up ce matin. On peut en parler, juste en dire un mot, juste pour terminer sur la qualif. Johan Zarco partira
voilà,
8e.
Te demander, oui.
Donc,
c'est plutôt pas mal.
C'est plutôt
pas mal,
effectivement. Troisième ligne pour Johan Zarco.
Et Loris Baz.
Loris Baz un peu plus loin. Alors,
oui, je crois
classement.
Qu'il est loin. Il était furieux, il avait des problèmes de frein.
Ouais,
problème
ça.
De frein, il
partira très loin, malheureusement, Loris Baz. Petite inquiétude aujourd'hui pour Jonas Folger. Il a chuté lourdement en warm-up. Il a fait un sacré soleil. Vous avez la vidéo sur rmcsport.fr. Inquiétude, apparemment, il n'est pas blessé gravement. En revanche, on ne sait pas s'il prendra le départ du Grand Prix MotoGP. C'est le coéquipier, on rappelle, chez Tech 3 de Johan Zarco. Donc, on suivra évidemment l'évolution de la chute de Jonas Folger, l'Allemand.
Merci beaucoup, Benoît. On te retrouvera tout à l'heure, naturellement, dans le cadre d'Intégral Sport pour parler de ce Grand Prix, puisqu'il est décalé, ce Grand Prix moto. Voilà, on vous a donné l'essentiel des informations concernant la Formule 1. Ça n'est pas terminé, on se retrouve dans quelques minutes pour le départ. Avant, on passera par la case info. Vous restez avec nous sur RMC, la radio de la Formule 1.
RMC Motors avec Motors CV.